France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Chaque été, d'un bout à l'autre de la France, le rituel recommence. Les files de voitures sur les autoroutes, les littoraux colonisés par des hordes de touristes. Les plages, ces longues bandes de sable ou de galets, deviennent pour quelques semaines le théâtre d'une petite comédie où chacun joue à ralentir, à rompre avec son mode de vie citadin. Il fallait bien le regard de deux sociologues pour éclairer cette série de rituels, de l'illusion de la Robinsonnade estivale à la réinvention des rapports au corps. Dans ce numéro de l'émission Staccato, réalisé au beau milieu de l'été 1998, Antoine Speer donnait la parole à Jean-Claude Kaufmann, auteur de Corps de femme, regard d'homme, paru chez Nathan en 1995, ainsi qu'à Jean-Didier Urbain, auteur de « Sur la plage », paru chez Payot en 1994. Deux regards pour comprendre ce qui se joue dans le dénudement et les regards portés sur les corps. En milieu d'émission, un débat animé par Nicolas Demorand, alors jeune recrue de France Culture, autour d'un documentaire de Robert Salis sur le naturisme à la recherche du paradis perdu. Un paradis âprement discuté, comme vous l'entendrez. Le nu, nu à la plage, et le nu sous toutes ses formes, c'était donc le programme de ce numéro de Staccato par Antoine Speer, première diffusion sur France Culture le 15 juillet 1998.
Staccato, Antoine Speer, bonsoir. Les regards de l'été, la nudité à la plage. La grande transhumance des vacanciers a repris au moins ce week-end. Nous entrons dans la troisième génération des congés payés depuis 1936. Le temps des vacances devient un rituel stable dans une société mobile. Et sans doute la plage reste-t-elle la destination préférée. Sea, sex, sun. Aussi notre premier invité sera-t-il Jean-Didier Urbain, professeur de linguistique à Versailles, auteur de Sur la plage, publié chez Payot. Il y affirme que sur le sable, l'estivant aspirerait d'abord à jouer les Robinsons. Rêvant d'espaces vierges, il souhaiterait compulsivement retourner à un prétendu état naturel. Mais pour autant, le goût du confort que notre société de consommation a amplement développé, ne disparaît pas au profit de la vie sauvage. Nous voudrions à la fois la nature et l'usage des objets et ustensiles quotidiens dont nous avons l'habitude. Le Grill aura pour thème la nudité que Robert Salis, cinéaste, réalisateur de « À la recherche du paradis perdu », contemple chez les naturistes. Catherine Anthony, qui vient de consacrer un livre à l'amour aux éditions du Cherche Midi, préfère quant à elle le plaisir d'un nu qu'on dévoile, d'un corps caché avant que d'être montré. Plaisir du déshabillage. Notre témoin sera le sociologue Jean-Claude Kaufmann, spécialiste de la famille et de la vie quotidienne. Corps de femme, regard d'homme, sa sociologie des seins nus vient de paraître en poche chez Pocket. Les évidences déclaratives des vacanciers cachent tout un ensemble de normes, de rites, de codes extrêmement précis. Il n'est guère d'endroit autant structuré par les jeux du paraître que la plage, nous dit-il. Dans cet univers particulier, les unes se montrent sans en avoir l'air, tandis que les autres font mine de voir, mais sans regarder. Make it. Morning.
C'était Sunday Shining par Finley Quay.
Jean-Didier Urbain, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'auteur d'un livre qui a été publié il y a quelques années qui s'appelle Sur la plage. Et vous venez de publier, toujours chez Payot, Secret de voyage, menteur, imposteur et autres voyageurs impossibles, invisibles. Ce qui signifie bien que vous vous intéressez beaucoup au voyage, au tourisme et à la plage. Alors, ce qui est intéressant dans votre livre, et c'est par là qu'on va commencer, c'est cette idée selon laquelle, quand on part en vacances pour la plage, ce que beaucoup d'entre nous et d'entre nos auditeurs vont faire très bientôt, vous dites que c'est la figure de Robinson qu'on cherche à incarner, cette figure de Robinson mythique peut-être, mm-hmm. qu'on essaye de retrouver et qu'on essaye d'être soi-même. C'est ça qui se passe pour tous ceux qui désirent la plage ?
Oui, il me semble, parce que la plage, c'est vraiment le monde qui s'est construit, je dirais, contre le monde, hors du monde, à la lisière du monde. On va vraiment sur la plage pour oublier le reste, en fait. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'appelle la plage l'avant-pays. C'est vraiment le pays avant tous les autres pays. Un pays qui n'a plus de traces historiques, qui n'a plus de traces sociales, qui n'a plus rien, qui est une scène vide, sur laquelle, eh ben, ma foi, ceux qui s'y installent peuvent réinventer le monde complètement, les règles de sociabilité, la façon de vivre ensemble.
Alors, à la fin du mois de juin dernier, David Caner a sillonné le sable très réputé de La Baule-les-Pins pour aller à la rencontre de cette espèce très répandue, de ces vacanciers dont vous nous parlez, ces vacanciers du bord de mer, qui ont fait de la plage leur territoire. Une carte postale sonore de Loire-Atlantique.
C'est elle qui m'amène à l'eau, hein. Elle adore ça. Eh oui.
C'est vrai que c'est une belle plage, faut avouer que. Il y a du monde, hein. Même à marée haute, hein, il y a encore de la place. Hein.
En planche, à part ça, un soleil, pas grand chose. Hein. S'il fait beau, ça va. Ça va, pour quelques jours, ça va, mais pas plus longtemps.
Et hier, il faisait pas beau, il n'y avait pas pu se baigner. Ah ben, si vous montez sur Bas-sur-Mer, tout ça, c'est des beaucoup plus petites plages. Hein. D'ailleurs, c'est moins envahi que La Baule. La Baule, c'est vrai, on fait beaucoup de choses sur La Baule, surtout l'été, quoi. La plage la plus belle d'Europe et compagnie, donc ça attire quand même du monde. Hein.
On regarde seulement, on admire. On bronze, puis on s'amuse. Là, il y a l'air marin. L'eau elle n'est pas si désagréable que ça, il y a les vagues. Tous les gens qui se jettent dans l'eau en général reviennent en disant « elle est bonne ».
Le bord de mer, c'est très, très sain et très très agréable. Après une année de travail, se retrouver dans un endroit de détente et le plus écologique possible, hein, c'est quand même ce qu'on attend d'une plage, qu'elle soit propre. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans la planète entièrement vierge. Hein. Il y a moins d'aller au Turkestan, en Inde ou dans l'Himalaya, mais ça, ce ne sont pas des vacances familiales. Je crois que les vacances familiales, quand on a des petits-enfants, bah, la plage, ça reste quand même un endroit extraordinaire. Les pâtés sur la plage, c'est quand même quelque chose qui rassemble un grand nombre de personnes.
Alors Jean-Didier Urbain, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'un linguiste important comme vous, auteur de nombreux livres, qu'est-ce qu'un sociologue va nous apprendre de plus que ces clichés stéréotypiques, repos, farniente, en fait c'est bien sain de se baigner, c'est tout à fait écologique, on y va en famille. Franchement, n'importe quel de nos auditeurs aurait pu dire la même chose. Mmh. Alors qu'est-ce que vous nous apportez de plus ?
Bonne question. Je remarque, de toute façon, là, dans ce qu'on vient d'entendre, bon, viennent des thèmes. D'une part, bon, aller à la plage, c'est sain. Donc déjà, ça, c'est déjà le vieil héritage historique lié à la plage. C'est la plage, elle est curative, enfin, elle est prophylactique. On se refait une santé au bord de la mer, quoi. Il y a toute une un imaginaire, je dirais, de la régénérescence, enfin, qui est à l'origine des pratiques balnéaires. Il y a l'écologie aujourd'hui qui aide, c'est-à-dire qu'en fait, dans un monde pollué, on rêve de pureté de plus en plus, et donc, si on peut pas aller au Tibet, bon, on va sur la plage, parce que la plage, justement, c'est quelque chose qui est nettoyé. Maintenant, le sable est régulièrement désinfecté.
On oui, nettoie les plages. Urbain, vous savez très bien qu'il y a une carte des plages polluées, et qu'en fait, il y a un très grand nombre de plages en France qui sont polluées. Il y a une carte qui est publiée par tous les journaux qui s'intéressent au tourisme. Donc, finalement, c'est complètement faux, cette histoire de...
Non, c'est-à-dire qu'on dramatise écologique. Un petit peu les choses pour faire jouer le jeu de la concurrence.
Vous croyez
largement, parce que vraiment les possibilités de substitution, de remplacement de sable, de nettoyage de sable, etc., où l'on donne des coefficients bactériologiques absolument effrayants pour quelqu'un qui n'interprète pas, je dirais, les choses dans le... C'est un peu comme les becquerels à l'époque de Tchernobyl, on en trouvait dans les salades, si vous voulez, maintenant on trouve de la bactérie partout. On joue largement sur cette phobie, parce que ça alimente largement un imaginaire de la pureté et du littoral avant l'homme, en fait, et la plage, elle s'ancre largement aussi dans cette imagerie-là. Et puis, il y a le troisième thème qui a été abordé dans ces propos, c'est le thème de la famille. C'est vrai que dans une société où la famille a de plus en plus de mal à se vivre dans son unité, ma foi, la plage est un théâtre donné pour vivre idéalement ses habitudes de famille, affective. On a tort de dire que la plage, c'est vraiment reproduire la vie de la ville. En bord de mer, c'est pas vrai, parce que la différence entre la plage et la ville, c'est que sur la plage, il n'y a pas de mur, et que tout le monde se voit, qu'on est dans une société de la transparence, qu'on peut donc jouer le bonheur, échanger avec d'autres, échanger avec des voisins, qu'on ne connaît même pas dans un immeuble parisien, je dirais, ou tout autre immeuble. Donc c'est tout ça la plage, c'est un monde qui se reconstruit complètement sur une scène vide. Donc, en tant que linguiste, pourquoi le langage? Vous voyez, il y a quelqu'un qui a dit, c'est curieux, les gens, dès que les gens vont dans l'eau, ils disent, elle est bonne. Effectivement, la plage, c'est un lieu d'un discours très ritualisé. Il faut toujours frissonner quand on met le pied dans l'eau, et puis, trois minutes après, dire, elle est délicieuse, viens donc, etc. C'est-à-dire que c'est aussi le lieu où l'on peut éprouver du plaisir en public sans gêne. C'est un lieu d'impudeur tolérée. C'est donc un lieu aussi de nudité, d'exhibition, de trafic des regards, je dirais, où l'on se montre à l'autre. Tu as vu comme je suis bien encore pour mon âge. J'ai encore la peau lisse, j'ai encore la peau molle, souple, tout ce qu'on veut, bronzée, attirante, etc. La plage est aussi un lieu de quantité d'adultère par le regard. C'est le lieu où je peux encore montrer que je suis capable
adultère
de séduire.
Adultère par le regard,
oui.
n'en faites pas trop.
Non, je n'en fais pas trop. C'est-à-dire que l'on peut encore montrer à l'autre que je suis capable de séduire. Et ne serait-ce que séduire l'autre par le regard, c'est déjà le tromper, mais c'est une tromperie justement.
Quoi, séduire, c'est tromper ?
Séduire, c'est tromper quand, par exemple, un homme montre à sa femme ou une femme montre à son mari que, ma foi, elle peut être un objet de désir autrement que pour lui ou pour elle. C'est déjà une tromperie.
Ça se passe pas qu'à la plage, ça.
Ça se passe pas qu'à la plage, mais la plage favorise particulièrement ce jeu-là.
Jean-Didier Urbain, vous faisiez allusion à ce thème du bain un peu curatif, thérapeutique, et en fait, dans votre livre, vous expliquez bien que au départ, on a apprivoisé la mer par ce biais-là, c'est-à-dire par un discours scientifique, un discours
absolument.
Des médecins. Mais avant, il faut rappeler, et vous le rappelez bien, c'est que avant, non seulement la mer intrigue, mais elle fait très peur, d'une part parce que ces rivages sont dangereux, mais d'autre part parce qu'il y a des drôles d'êtres humains qui côtoient les rivages et qui sont considérés comme des bons sauvages.
Absolument, c'est vrai qu'on a oublié cela, mais ça a été très bien décrit d'ailleurs par un historien comme Alain Corbin. C'est l'état sociologique du littoral quand il a été peu à peu colonisé.
Alors là, on est quand? On est au 18e?
Oui, au 19e, fin 18e, à partir de fin du 18e, les premiers bains, je dirais, thérapeutiques, le prince de Galles pour soigner son goitre, pardon. À Brighton, c'est fin du 18e. C'est à cette époque-là qu'on découvre effectivement une population du littoral qui est finalement une population oubliée, qui est une population de la marge, par définition, qui vit de la pêche, bien sûr, qui vit des algues, qui vit des coquillages, et qui vit vraiment à l'écart de tout lieu de sociabilité, en fait. Et on découvre effectivement ce littoral comme on découvrirait une forêt vierge.
Et cette découverte un peu exotique, elle va être fatale à cette population, puisque vous expliquez que au fur et à mesure ces découvreurs vont devenir des baigneurs, donc de spectateurs ils vont devenir acteurs, et les vrais acteurs du littoral vont être amenés à disparaître peu à peu.
C'est-à-dire enfin les vrais,
les pêcheurs, oui. les gens de la mer.
Mais c'est vrai que
les premiers occupants,
voilà,
les autochtones.
C'est ça. Il y a un peu de ça. Ceci dit, il ne faut pas non plus
exagérer.
Attribuer la disparition, je dirais, des autochtones à la seule découverte, je dirais, esthétique du rivage.
Il y a l'industrialisation.
Il y a l'industrialisation de la pêche qui est un facteur aussi déterminant parce que ça va susciter le regroupement, je dirais, des travailleurs de la mer dans des ports. La disparition des pêches locales au profit de grandes concentrations industrielles. Donc il y a cela aussi. Et d'une certaine façon, la découverte esthétique de, et hédoniste, je dirais, du rivage et médicale du rivage est un petit peu ce qui sauve le rivage parce que ça va, on va lui trouver, grâce à cela, de nouvelles fonctions. Donc, il ne faut pas confondre cause et effet, je dirais.
Alors, vous faites allusion notamment au texte de Chateaubriand vantant la beauté du rivage, au texte de Flaubert aussi. Et cette appropriation esthétique qui, petit à petit, va se transformer en appropriation réelle, c'est-à-dire en lieu qu'on va occuper. On regarde d'abord, et puis on va mettre quelques années à regarder. Et après avoir seulement regardé, on va maintenant marcher sur la plage.
C'est ça.
Alors, allons-y, on va commencer à marcher sur la plage. Comment marche-t-on? C'est-à-dire, comment prend-on possession du lieu. Alors, vous parlez de la naissance du baigneur et de la manière dont le baigneur va commencer. Il est très habillé. Vous dites que pour les hommes, d'ailleurs, au départ, on est largement habillé. Pour les femmes, encore plus. Mm-hmm. Et déjà, c'est extraordinairement érotique qu'une femme puisse dévoiler une épaule ou un bout de pied sur la plage. Mm-hmm. On n'en est pas encore au mini maillot, au 19e siècle.
Loin,
Et alors, en fait, vous parlez de ces balnéopathes, d'abord, c'est-à-dire des gens qui n'acceptent pas le bain, jusqu'aux balnéophiles, c'est-à-dire ces gens qui vont maintenant aimer le bain sur la plage.
Absolument.
Alors, c'est une évolution qui se fait encore très lentement, ça.
C'est très très lent, c'est-à-dire qu'effectivement, comme vous le dites très justement, d'abord on va au bord de la mer pour regarder, pour humer, on a un rapport purement atmosphérique, je dirais, à l'élément, jusqu'au moment où effectivement on s'aperçoit quand même que l'immersion dans ces eaux a des vertus, et tellement de vertus d'ailleurs qu'on lui en prête plus qu'elle n'en a, puisque le froid de la mer va stimuler l'apathie, va calmer le nerveux, va recalcifier le décalcifié, etc. Va même soigner de la rage jusqu'à ce qu'on découvre le vaccin antirabique. Donc, et même d'ailleurs soigner certaines perversités comme la masturbation. Enfin, la mer a toutes les propriétés, quoi. Et si vous voulez, c'est à ce prix, effectivement, qu'on va se baigner. C'est-à-dire qu'on va prendre la mer comme un remède. Donc, en souffrant. Et surtout, les mers froides. Je veux dire, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que les premières mers colonisées par les baigneurs sont les mers froides. Aujourd'hui, on a complètement inversé le mouvement. Ce sont les mers chaudes vers les mers chaudes que l'on va, les mers douillettes, si je puis dire.
Alors, Jean-Didier Aubin, comment passe-t-on de la vertu au plaisir? Au plaisir de la mer, au plaisir de la baignade. Est-ce que c'est la nage? Est-ce que c'est... Qu'est-ce
oui, je pense, de toute façon, il y a différents facteurs. Bon, d'une part, il y a le plaisir du corps, il y a le souci de soi. Je dirais la valorisation de son corps. C'est un théâtre exceptionnel. Je dirais que on parlait justement de cet érotisme qui peu à peu pointe. C'est vrai que d'abord, l'eau, ça mouille et le tissu mouillé, ça moule. Et qu'à partir de là, il y a un corps que découvre le 19e siècle alors qu'il s'est attaché à le cacher.
Alors vous nous donnez pas mal de figures d'ailleurs érotiques concernant l'entrée dans l'eau, un peu comme un sexe mâle qui entre dans un sexe femelle. Vous parlez de l'écume des vagues avec tout l'érotisme qui a été autour de cette écume des vagues. Vous parlez de cette sensualisation de la mer, du rivage, de l'écume, de la marée, des flux et de ses reflux. Et je dois dire que vous citez beaucoup d'exemples littéraires de gens qui ont fait allusion à cette érotisation de la mer. Alors, érotisation de la mer, en même temps, comme vous parlez tout le temps de Robinson, puisque c'est la trame du livre, et d'être seul, c'est donc un Robinson seul qui va être érotisé avec la mer?
En quelque sorte, c'est d'ailleurs, je crois que Michel Tournier ne s'y est pas trompé dans Robinson les lames du Pacifique, c'est-à-dire que seul, il faut qu'il se trouve un compagnon, avant même de se trouver un vendredi, il se trouve l'île déjà comme compagne, et puis la mer justement, enfin qui est, cette homophonie en plus en français entre mer et la mer maritime et la mer maternelle, je veux dire qu'effectivement, il y a ce rapport quasi incestueux à la mer qui est sous-jacent à cela.
J'imagine, Jean-Didier Aubin, que vous avez, pour votre livre, vous avez été beaucoup sur les plages. Mm-hmm. Aujourd'hui en France, vous devez avoir beaucoup de mal à trouver des plages qui séduisent vos Robinson, parce que il m'est arrivé de fréquenter des plages comme tout le monde. J'ai plutôt eu l'impression que c'était comme la place de la Concorde à midi.
Oui, mais alors justement, je crois que là, il ne faut pas qu'il y ait de mésentente concernant justement la solitude idéale qu'est censée incarner Robinson. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Robinson est un profond dépressif jusqu'à l'arrivée de vendredi. Ce n'est pas vendredi qui vient chercher Robinson, c'est Robinson qui va le chercher, parce qu'il crève de solitude, Robinson. On ne jouit de sa solitude que quand on a quelqu'un en miroir, au moins. Il faut se montrer dans sa solitude.
Ah bah là, on ne risque pas de manquer de miroir, en
absolument,
général, sur les plages.
Alors, c'est là que ça devient intéressant pour le sociologue, c'est que la société de plage, c'est une solitude, c'est une foule solitaire. C'est une foule qui cherche à se détacher du monde.
Ça, c'est un titre de Riesman, ça.
Absolument. D'ailleurs, je le cite.
Sociologue américain.
Absolument. C'est une foule solitaire. Et c'est ce qu'on vient chercher, je crois. C'est
mais Griezmann, quand il parlait de la foule solitaire, il insistait sur le fait, alors justement, que les gens ne communiquent pas vraiment entre eux. Or, vous, dans votre livre, vous dites exactement l'inverse. C'est-à-dire que vous dites que les gens communiquent entre eux, puisqu'ils sont très fascinés par la séduction et qu'ils ont besoin de plaire et surtout de trouver des gens qui leur plaisent.
Oui, mais c'est une communication en trompe-l'œil. Je veux dire, c'est le propre, sans doute, de la communication vacancière. C'est que c'est une communication en apesanteur, détachée des réalités sociales, qui donc n'existe que le temps des vacances.
Alors, vous dites, par exemple, que 5% des couples seulement se sont formés. Est... Oui, vous citez chiffres dans votre
oui,
livre.
Oui, absolument.
5% seulement des couples se sont formés sur la plage. Donc, en fait, c'est une relation qui n'est pas stable. C'est une relation souvent infidèle et une relation qui ne donne pas lieu à conjugalité.
Oui, mais je crois que c'est assez à l'image de la plage. C'est-à-dire, c'est une société qui est écrite sur le sable, donc qui s'efface avec la première vague. Et les amours de vacances, c'est un petit peu la même chose.
Dominique Trayou.
Alors revenons aux années 50 et aux rêves un peu qui entourent cette fameuse plage. La plage pacifiée, alors pacifiée de ces bons sauvages, c'est une plage, au départ, c'est un théâtre vide. Et c'est ça qui est étonnant, ce qui est paradoxal.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un espace vacant. Hein, c'est un espace déserté, je dirais, par ses travailleurs. Et c'est un espace qui attend effectivement de nouveaux occupants, qui vont être d'abord, comme les décrit Michelet, des gens en bas de vernis, qui vont faire de la plage une sorte de second salon. Et peu à peu, ces galants en bas de vernis vont se dévêtir, vont devenir baigneurs. Et je crois l'étape extrêmement importante, c'est quand on passe, cette troisième étape sensorielle dans la révolution culturelle qu'est la plage, c'est quand on passe du baigneur au nageur. C'est-à-dire que le moment où l'on perd pied pour le plaisir. On a des accidents relatés, justement, de gens qui se noient dans 30 cm d'eau parce qu'ils ont peur, tout simplement, de flotter. Or, il y a un moment très important, c'est qu'on se met à flotter pour le bonheur, pour le plaisir. On se met à faire la planche. Perdre pied est un plaisir. Et ça, je crois que c'est une découverte, une expérience d'apesanteur absolument inédite dans l'histoire de l'humanité qui, d'un seul coup, s'offre au plus grand nombre.
Alors, Jean-Didier Urbain, vous soulevez un paradoxe très intéressant, je trouve, c'est le fait qu'on ait l'habitude de dire que le villégiateur balnéal recherche un contact avec la nature. Or, pas du tout, vous dites-vous que ce sont pas du tout des naturalistes, parce que ce qu'ils recherchent au fur et à mesure, c'est-à-dire dans les années 50, 60 et puis 70, c'est bien une plage confortable.
Absolument.
C'est-à-dire un peu apprivoisée.
Vous savez, c'est pour ça que je cite d'ailleurs Calvino dans Palomar qui dit... qu'un gazon, finalement, c'est quelque chose de totalement artificiel, constitué d'unités naturelles, qui est l'herbe. La plage est un petit peu le même principe. Le grain de sable en lui-même est naturel, mais sa disposition, sous forme de sable, est complètement artificielle. On ensable les plages, on améliore leur ensablement, on enlève les algues, qui sont pourtant de l'ordre naturel, mais perçues comme une pollution aujourd'hui.
C'est ça, plus d'algues.
Voilà. Une bonne plage est une plage qui n'a pas de galets, donc pas d'aspérité, qui n'a pas non plus de méduses, et puis... quelle horreur, pas de poissons. Je veux dire, des poissons dans la mer, quelle horreur. Je veux dire, des vives, des poissons comme ça, qui remettent en cause, justement, c'est ça, le côté douillet de la plage, le côté maternel de la plage, justement, féminin. Tout cela doit être évacué. Donc, c'est un espace totalement artificialisé. Et il y a un vieux serpent de mer qui, depuis des années, on se demande si, oui ou non, on doit ensabler la plage de Nice, qui est toujours de galets, parce qu'on se demande si Nice ne gagnerait pas à être ensablée à son tour.
Alors, pas de serpent dans la mer, non, ne vous inquiétez pas. Ce qui est assez frappant, c'est que quand, par exemple, Trigano du Club Méditerranée parle de la plage, lui, il dit que c'est pour fuir l'angoisse, c'est pour rechercher de façon un peu dramatique la sécurité. Donc, il a bien compris ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut trouver une certaine sécurité, donc sur une plage artificielle. Et vous parlez de ces vacances de villégiature où on ne sort pas des lieux encadrés et qui ont pour objectif de reconstituer une villégiature, mais seulement à la plage, dans une plage artificielle et finalement une nouvelle villégiature qui change seulement de la villégiature d'autrefois. Mais moi, je voudrais essayer de comprendre ce que vous voulez dire quand vous nous dites que l'invention de la plage contemporaine, c'est l'histoire d'une séparation, d'un détachement, dites-vous, au terme de laquelle, dites-vous, naît un territoire en marge qui, après avoir exotisé ses habitants, c'est-à-dire les pêcheurs dont on a parlé tout à l'heure, qui ont été chassés, ensuite s'est progressivement exotisée elle-même pour s'exclure du monde à son tour. Est-ce qu'on est vraiment exclu du monde quand on va au Club Méditerranée ? Est-ce que finalement on ne reconstitue pas son propre monde ? Alors, vous vous dites exclu du monde, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas un monde aussi qui est une société traditionnelle ? Alors, y compris avec ses différences sociales, malgré les apparences, qui s'est reconstituée. Vous nous dites vous-même d'ailleurs qu'il y a des plages différentes pour les riches et pour les pauvres, qu'en Angleterre déjà, au début du siècle, les riches allaient à Brighton, les bourgeois allaient à Brighton, et d'autres allaient dans des plages infiniment plus sélectes.
Absolument. Exclu du monde, attention, c'est une exclusion volontaire, recherchée. Et je définis bien la plage non pas comme une simple exclusion. Je dis que c'est la constitution d'un monde hors du monde. C'est un deuxième monde, si vous voulez, un monde parallèle, où effectivement, on rompt avec un quotidien, mais on ne rompt pas avec ses habitudes. Justement, le quotidien, c'est ce qui empêche de vivre idéalement ses habitudes. La plage donne un théâtre d'opération, je dirais, où l'on peut vivre idéalement ses habitudes. Donc, ce monde est en marge, ce monde s'exclut, s'auto-exclut, pour pouvoir mieux s'accomplir, je dirais, à travers ces idéals types, hein, comme dirait Max Weber, c'est-à-dire la famille, le groupe, la tribu, le totem, le rassemblement, l'échange interclanique, etc. Tout peut se faire sur ce territoire-là. Et c'est en ce sens-là, moi, que je veux dire, je parle de détachement. Ceci dit, c'est aussi un symptôme de société. Je veux dire qu'une société, pour fonctionner, doit forcément trouver des sas, des soupapes de sécurité, se délester de phénomènes de surpression. La plage est un fantastique lieu pour justement dégonfler une société de ses pressions. Je veux dire que
un théâtre d'oubli du monde, un
théâtre de rencontre aussi. Je dirais, il est intéressant de voir que la plage, d'une certaine façon, remplit un petit peu la fonction que remplissait jadis le bal populaire. Les lieux de rencontre, les lieux de drague, les lieux de séduction, les lieux de flirt, c'est sur la plage maintenant qu'on va les chercher. Ça s'achève dans le nightclub qui est juste sur la promenade à 50 mètres de l'endroit de la rencontre. Mais c'est ça aussi la plage, c'est tout cela. C'est une soupape de sécurité gigantesque. Et quand on sait que pratiquement la moitié des Français qui partent en vacances vont sur la plage, ça devient véritablement un phénomène de société.
Alors vous dites que c'est un bonheur prévisible, des joies qui sont récurrentes, mm-hmm. et qu'en fait la relation au même fait partie du décor, mm-hmm. et que d'une certaine façon on sait exactement ce qui nous attend quand on va sur la plage. Et c'est finalement cette répétition de ce qu'on connaît déjà qui est le plus souhaité.
Absolument, c'est la jouissance de la prévisibilité. Le loisir balnéaire, c'est être maître de son temps. C'est être maître de son temps, c'est maîtriser la durée. Ce n'est pas la subir, ce n'est pas s'astreindre à des calendriers, des rendez-vous, des programmes de journée. C'est vraiment gérer les choses telles qu'on l'entend. C'est sans doute un univers en trompe-l'œil, mais un univers dans lequel je peux un instant croire être complètement être maître à bord de mon existence. Et ça, c'est sans doute le mirage fantastique que propose la plage.
Alors Jean-Didier Urbain, le naturisme par qui le scandale arrive, bien sûr abordé par votre livre, s'étendre sur la plage dans le plus simple appareil, voilà un phénomène qui a surgi dans le même élan que le tourisme balnéaire. Alors non sans polémique, bien sûr, notre correspondant à Berlin, Jérôme Segal, est bien placé pour le savoir, car le naturisme est un phénomène qui s'est particulièrement développé en Allemagne outre-Rhin.
En Allemagne, on parle de culture du corps libre, sous le sigle FKK, on trouve des centres de vacances du FKK, des associations sportives et autres. L'idée, c'est celle d'une harmonie avec la nature qui s'exprime par la nudité en communauté.
Alors d'où ça vient ce phénomène? Est-ce que vous pourriez nous remonter dans le temps?
Alors, en gros, on peut dire que c'est la fin du 19e siècle, dans un mouvement à l'origine plutôt égalitaire qu'est né le naturisme, surtout autour de Berlin d'ailleurs. On parle d'une culture de la nudité à partir de 1893, très précisément, un livre d'un dénommé Heinrich Pudor. Si le mouvement a subi au début quelques persécutions, sous la République de Weimar, c'était au contraire plus tolérant. Et dans les années 30, il y a eu des développements assez antagonistes, parce que d'une part, ce mouvement égalitaire s'est poursuivi dans une culture qu'on dirait aujourd'hui libertaire, et d'autre part, il y a eu une espèce d'instrumentalisation des naturistes par les fascistes sur le thème du culte du corps. Après-guerre, on observe des différences assez marquantes entre la RFA et la RDA, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le naturisme était plus toléré en RDA, c'est-à-dire par exemple que sur les plages, il n'y avait pas de distinction entre les plages FKK, donc des naturistes, et les endroits qui étaient pour tout le monde.
Alors Jérôme Segal, vous habitez à Berlin, est-ce que ce phénomène, est-ce que le naturisme est encore sujet à polémique?
Tout à fait, ouais. Il faut savoir que Berlin c'est 8 fois la superficie de Paris, que l'été il fait chaud, même très chaud, et que beaucoup éprouvent le besoin de se dévêtir. Alors il y a eu 2 polémiques que je trouve assez amusantes. La première concerne Kreuzberg, le quartier un peu alternatif de Berlin, à majorité turque, et notamment la piscine découverte de Kreuzberg. Car là, il n'y a rien d'officiel, mais un quartier, un coin de la piscine est occupé par les naturistes, et 2 questions ont été débattues dans les journaux, notamment dans la TAZ, la Tageszeitung. C'était, a-t-on le droit de mettre une barrière pour que les naturistes puissent rester entre eux? Et parmi les naturistes, peut-on profiter de la tolérance des établissements de la piscine pour exhiber ses bijoux intimes, car vous savez sans doute que le piercing est à la mode en ce moment à Berlin. La deuxième polémique concerne le Tiergarten, cette espèce de bois de Boulogne situé en plein centre de Berlin. Et là, je ne sais pas si c'est un terrain d'étude intéressant ou pas pour nos sociologues, mais bon, il y a bien sûr un quartier du bois qui est réservé à la prostitution, ce qui est assez banal, mais sans doute moins banal à mon sens, le fait qu'il y ait une partie réservée aux homosexuels masculins, réservée de façon évidemment officieuse, et une autre partie de même pour les naturistes, et on observe actuellement un recoupement des parcelles, si bien que sur un faible périmètre, on peut voir des naturistes homosexuels et des homosexuels non naturistes. Enfin, aux intéressés, ceux qui veulent éviter les polémiques de Kreuzberg ou du Tiergarten, je rappellerai qu'il y a 4 lieux officiels pour le naturisme, 4 lacs, le lac de Tegel, le lac de Wannsee, Plötzensee et Müggelsee, donc avis aux amateurs.
Jean-Didier Urbain, vous en soulevez une troisième polémique au sujet du naturisme, et notamment au sujet de ses racines qui seraient un peu obscures. Vous citez Monsieur de Mongeau, grand promoteur du nudisme en France. Mm-hmm. La libre culture physique fait merveille dans de nombreux pays en recréant des races fortes. Pourquoi donc ne dispenserait-elle pas également ses forces parmi nous ? Mm-hmm. C'est un peu tendancieux. C'est...
Oui, ben, si vous voulez, moi, ce que j'ai pu rechercher, ce que j'ai pu trouver, enfin, il y a quand même cette base, effectivement, autour du culture du corps, de la culture du corps. Il y a quand même une sorte de volonté de normalisation esthétique, en fait, hein, que je trouve assez inquiétante, qui s'enracine d'ailleurs et qui se prolonge à travers des pratiques alimentaires aussi, tournées vers des aliments jugés purs, comme le lait, les végétaux, enfin, etc. Je dirais qui annonce un petit peu les excès du crudivorisme contemporain, hein, l'instinctothérapie, etc. Je veux dire, tout ce que ça peut avoir effectivement de fascisant, hein, de normalisateur, on le trouve dès le départ. Et entre autres, on le trouve avec la création du mouvement des Wandervögel au début du siècle, où effectivement on pratique le naturisme, on se donne des noms médiévaux, et où finalement, là aussi, on voit comment une espèce de volonté de pureté de soi s'articule avec un nationalisme échevelé.
Le pur et le cru, c'est le retour à une idée de nature stéréotypée, donc au fascisme.
Oui, enfin très mythifié, oui.
Merci Jean-Didier Urbain. Je rappelle que votre livre s'appelle « Sur la plage », qu'il est publié aux éditions Payot et que vous venez de publier par ailleurs « Secrets de voyage, menteurs imposteurs et autres voyageurs impossibles », toujours chez Payot. Staccato, France Culture, deuxième partie. Bonsoir à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Rebonsoir aux autres. Aujourd'hui, notre émission est consacrée au regard de l'été. Notre témoin sera le sociologue Jean-Claude Kaufmann, auteur de « Corps de femme, regard d'homme » qui vient de reparaître aux éditions Pocket. Mais tout de suite, nudisme ou érotisme, c'est à vous Nicolas Demorand.
Oui, et notre exploration du regard estival croise ce soir la question donc de la nudité et du naturisme, une pratique que ses adeptes considèrent comme un art de vivre, voire comme une philosophie, et qui consiste notamment à refuser la civilisation dite textile et à vivre nu. Vivre nu, c'est justement le sous-titre du film de Robert Salis, qui est ce soir notre premier invité. Bonsoir. Bonsoir. Dans ce documentaire, vous filmez un certain nombre de naturistes dans différents centres français, comme Montalivet ou le Cap d'Agne, pour ne citer que les plus célèbres. On peut dire que votre film cherche à comprendre un mode de vie et à dissoudre les préjugés les plus communs en matière de naturisme. À vos côtés, Catherine Anthony, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'auteur de L'amour aujourd'hui, aux éditions du Cherche Midi, qui est une enquête sociologique, une enquête en forme d'inventaire de la relation amoureuse, sexuelle et érotique de nos contemporains. Alors Robert Salis, qu'est-ce qui a, c'est une première question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce qui a motivé votre envie de faire un film sur le naturisme ? Comment est né ce projet ?
Au départ, moi je voulais faire une série de documentaires qui étaient consacrés à l'histoire de la pudeur, parce que je trouve que c'est un thème très intéressant. Et il y a eu un ouvrage « Histoire de la pudeur » de Jean-Claude Bologne qui parle de ça, mais ça a été un projet très très difficile à faire. Et un des volets, un des documentaires donc de ce projet, c'était le naturisme. Parce que je me suis aperçu qu'effectivement, il n'y avait pas de film de fond sur le sujet. Et c'est un mouvement qui est quand même assez important. C'est une pratique qui se développe de plus en plus, essentiellement en Europe. Et c'était intéressant de faire un petit peu le point sur ce mouvement naturiste.
Et alors, pourquoi avoir préféré appeler ce film « À la recherche du paradis, du paradis perdu » plutôt que « Vivre nu » ?
Vivre nu, c'est le titre du livre de Marc-Alain Descamps, qui est psychosociologue et qui apparaît comme fil conducteur dans le film. Et à la recherche du paradis perdu, c'était un petit peu un clin d'œil par rapport évidemment à Adam et Ève et par le fait que la nudité ait pu être innocente et ensuite bannie. Et en fait, c'est une métaphore...
qui n'a pas valeur de slogan.
Non, c'est
d'abord... C'est pas un film militant.
Non, je pense pas, non. S'il est militant, c'est dans le sens où ce qui m'intéressait, c'est de comprendre pourquoi la nudité est encore tabou, contrairement aux apparences. Et pourquoi elle dérange encore beaucoup. Et En Europe, on est assez privilégié par rapport à ça, mais moi, j'ai montré le film aux États-Unis, au Québec.
Il a été reçu aux États-Unis ?
Les gens sont encore très très choqués de voir que, bon, n'oubliez pas qu'aux États-Unis, les femmes n'ont pas le droit d'être seins nus sur une plage, par exemple. Bon, n'en parlons pas, dans les autres continents, c'est aussi encore très tabou la nudité.
Catherine Anthony, comment avez-vous perçu ce film, ces images de nudité? Quel est le statut, à votre avis, de la nudité qui se montre dans le film de Robert Salis?
C'est assez compliqué, finalement, parce que ce sont des gens qui voudraient gommer, à mon sens, toute la force symbolique qui est dans notre civilisation, donc qui voudraient gommer la civilisation qui les dérange. Parce que monsieur dit d'ailleurs... En étant complètement nu, on a l'impression de ne plus avoir ce collier du chien qui nous tient. Mais de notre côté, cette civilisation, elle est là, elle est extrêmement présente. La preuve, c'est qu'ils ont à être enfermés pour cela. Donc à nous déranger à être nus et enfermés, parce que ça nous rappelle des tas de choses. Et puis, il y a toujours les appareils électroménagers, il y a les voitures, les vélos, il y a même les chiens tenus en laisse. À un moment, le comble du comble, il y a un naturiste qui marche, deux naturistes qui marchent avec un chien tenu en laisse. Donc, moi, j'y vois quand même, chez ces gens-là, la quête, je ne sais pas moi, d'une illusion. Hein. Je vois quelque chose chez ces gens-là, quelque chose qui n'est pas très sérieux. La quête d'une illusion qui serait
qui n'a rien à voir
avec un monde sans symbolique.
Un paradis perdu, un état de nature.
Ce paradis, il faut parler. De toute façon, ça relève d'un malaise entre la difficulté des difficultés de la civilisation, donc du sexe, hein, et puis le désir de retour, de la confiance. Donc une oscillation des deux tendances, forcément toujours un malaise, toujours été un enfer, que de vouloir quelque chose au niveau symbolique, donc au niveau sexuel, et de ne pas avoir la force d'y parvenir, comme le dit Rousseau. Donc désir retour à la nature, on croit qu'en venant à la nature, on va s'en sortir, mais on ne s'en sort pas du tout.
Robert Salis, vous déclarez dans une interview que vous avez voulu filmer les différentes parties du corps de la même manière, comme s'il fallait en quelque sorte sortir le sexe du traitement un petit peu honteux qui est le sien dans le cinéma, que le sexe, comme vous le dites, hein, soit jeune ou vieux, que ce soit un sexe d'homme ou un sexe de femme, il doit être filmé comme les mains, comme les jambes, comme le visage. Donc vous avancez ça, vous avancez une sorte de neutralité du sexe. Est-ce que c'est si évident que ça? Est-ce qu'on peut filmer justement un sexe comme des mains, comme des pieds? Qu'est-ce qu'on gagne à ce dévoilement?
Dans le cas présent, c'était tout à fait dans le contexte du film. Oui. Il est évident qu'à partir du moment où on parle de nudité, où on doit filmer où on prend le parti de filmer des personnes nues et entièrement nues, puisque c'est le sujet du film, à partir de là... Pourquoi ne pas montrer le sexe? Si on évite le sexe, c'est effectivement complètement reconduire le côté moral qui l'a entaché et qui considère que le sexe est coupable et l'est, en fait. Et à partir du moment où je filme un corps, si je prends le parti de filmer des visages, des torses, des jambes, des pieds, pourquoi ne pas montrer le sexe? Et en plus de ça, très vite, moi je pense que dans le film, on fait même plus attention à ce que les personnes sont nues. Et en fait, c'est comme si elles étaient habillées au bout d'un moment.
Robert Salis, moi ce qui m'a gêné dans votre film, c'est qu'au fond, vous adhérez un peu à l'illusion qui est celle des naturistes. C'est-à-dire l'illusion qu'on peut, d'une part, banaliser le sexe et d'autre part, banaliser le corps nu de l'homme. Or, en fait, dans la mesure où l'homme est un être socialisé, qui en général vit habillé, le fait de vouloir faire abstraction de ce contexte social pose un problème important pour les naturistes, problème que vous ne posez pas. Alors, c'est un peu comme si vous colliez à leur idéologie sans vous poser la question des problèmes que pose leur pratique.
Oui, bien sûr, parce que effectivement, on aurait pu tout à fait développer le film dans ce sens-là. Mais le problème purement social, si vous voulez, il est gommé dans la mesure où on les a filmés en train de pratiquer leur activité. Et que, comme vous le voyez dans le film, ils commencent par dire ce qui ne sont pas par rapport à ce qu'ils sont. Ils se mettent toujours sur la défensive, si vous voulez. Et par exemple, lorsqu'on va en Allemagne, où effectivement c'est en plein centre-ville et puis on voit que les gens sont nus au bord des rivières et en plein centre-ville. Donc on voit tout à fait que la nudité est complètement admise dans le corps social. Effectivement, c'est tout à fait une expérience. Moi, j'ignorais complètement ça aussi, mais lorsque je suis allé en Allemagne et que j'ai vu les gens se mettre nus et au bord des rivières et dans les parcs et côtoyer des personnes habillées et qu'il n'y avait absolument aucun problème. Donc, et puis ça se passe aussi dans les pays du...
Qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a aucun problème?
Ben, il n'y a aucun problème de voyeurisme, parce que
quelqu'un d'autre pourrait dire, quand les gens sont habillés, il n'y a aucun problème. Vous n'avez rien dit en disant il n'y a aucun problème.
Non, mais je veux dire, il n'y a aucun problème de ce que les détracteurs de la nudité pensent qu'il pourrait y avoir des problèmes de débauche, de partouze, d'exhibitionnisme, de voyeurisme, tout ça, etc. Mm-hmm. Je veux dire, par rapport aux enfants, l'amalgame qu'on a fait jusqu'à présent de pédophilie et de naturisme, tout ça aussi, c'est complètement...
Pour l'épanouissement oedipien d'une petite fille, par exemple, je ne pense pas qu'il soit idéal de vivre dans la promiscuité asexuée, je dis bien asexuée, de son père. Parce qu'asexuer son père, c'est la chose la pire qui puisse lui arriver. Son père, il n'est pas asexué.
Oui, mais voir nu son père, c'est pas asexué.
Oui. Ah non, tu crois ? Vous croyez que c'est pas...
Sur cette idée d'un corps social dont parlait Antoine à l'instant, d'un corps social qu'on ne peut pas gommer, d'un corps symbolique,
moi, je pense
qui se retrouve gommé d'ailleurs dans le film de Robert Salis, il y a effectivement, c'est lié à son objet évidemment, mais il y a effectivement une littéralité du corps nu, du corps naturel qui fait qu'on oublie totalement cette dimension symbolique. Est-ce que vous pensez que c'est une perte
Montrons le corps nu pour exorciser la menace. Montrons le corps nu pour exorciser la menace du sexe. Voilà. Mais revenons au paradis, peut-être. Moi, je vais peut-être un peu parler de cette idée de paradis. Donc, cette idée de paradis, on pense bien sûr à la Bible. Mais la Bible, elle vient de beaucoup plus loin, elle vient de Sumer. C'est-à-dire que dès que l'homme a commencé à écrire, tous ses problèmes se sont posés. Ou plutôt, dès que ses problèmes se sont posés, l'homme a commencé à écrire. Alors, je vais parler un petit peu du voile avant. Deus in Ana Ishtar, je me souviens que dans un poème... Déesse Inanna Ishtar, donc 2000 ans Sumer, 2-3 000 ans avant Jésus-Christ, c'est une déesse qui avait le sens de l'érotisme, puisque c'était la grande déesse de l'amour et de la guerre. Et à un moment, elle veut un cache-sein, homme, viens, viens. C'est-à-dire, elle sait très bien que pour que l'homme vienne... Un cache-sein, homme, viens, viens. Alors donc, cette société... a inventé la connaissance, l'arrivée à la connaissance, encore exempte du péché. Je lis un court passage de l'épopée de Gilgamesh, donc 2000 ans avant Jésus-Christ, qui nous dit la connaissance, bien avant le péché. Ensuite, nous passerons à la Bible. La courtisane apprend à cet homme innocent ce que la femme enseigne. Il la possède et s'attache à elle. 6 jours et 7 nuits, un kidou sans cesse possède la courtisane. Lorsqu'il est rassasié de ses charmes, il lève son regard vers ses compagnons, mais en le voyant, les gazelles se détournent de lui et les bêtes sauvages le fuient. Un kidou est sans force, ses genoux le trahissent. Lorsqu'il veut suivre sa harde, affaibli, il ne peut plus courir comme autrefois, mais son cœur et son esprit sont épanouis. Donc, il a la connaissance en lui. On passe plus tard à la Bible. La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était, cet arbre, désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il mangea. Alors, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Donc, arrive le péché beaucoup plus tard. Alors ensuite, on passe à Rousseau, peut-être. Rousseau qui se pose cette question, d'où vient la faiblesse de l'homme ? De l'inégalité qui se trouve entre sa force et ses désirs. Ce sont nos passions qui nous rendent faibles, parce qu'il faudrait pour les contenter plus de force que ne nous en donna la nature. Donc, soumettons-nous gentiment à cette nature aussi. La nature,
Juste un instant sur, oui. sur ce point, Robert Salis. Y a un moment qui est lié à ce que vient de lire Catherine Anthony. Il y a un moment intéressant au début du film, c'est la scène avec la première scène avec les deux jeunes hommes assis, donc nus, pris en plan moyen sur un parapet, et qui parlent de leur rapport, qui parlent tous deux de leur rapport à la nudité, et qui déclarent justement que dans le cadre d'une relation de séduction, de drague, comme ils disent, dans le cadre d'une relation donc de séduction, il y a une perte qui a l'œuvre parce qu'il dit on voit déjà le corps de la fille, donc on sait déjà ce qu'on aurait dû savoir après. Et il dit qu'il faut attendre le soir, qu'on se rhabille, qu'on mette des vêtements pour pouvoir entrer à nouveau dans un rapport de séduction, mettre des vêtements donc pour pouvoir mieux les enlever. Quel est votre sentiment face à cette anecdote des deux jeunes hommes?
Oui, c'est-à-dire que la séduction passe tout à fait par au-delà de la nudité. Ce qui est intéressant, justement, il y en a un qui fait du naturisme depuis tout petit, et il y en a un autre qui a été amené à travailler là-bas et donc qui est devenu naturiste, si vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que par rapport au phénomène de drague, ça passe par l'imagination, ça passe par...
par le dévoilement.
Exactement.
Quelque chose que nous connaissons bien. Et qui est...
Pour qu'il y ait désir, il faut qu'il y ait dévoilement.
Voilà.
C'est pour ça qu'un des problèmes qui est posé par votre film, c'est que vous n'interrogez pas, semble-t-il, ce problème qui est posé au début du film.
Et puis,
c'est-à-dire cette question du dévoilement.
Et la prise en compte d'une mort de l'érotisme, effectivement, dans la monstration de ces corps-là.
Mais la nudité collective, elle n'est pas forcément érotique, en fait. De toute façon, l'érotisme, ça concerne l'intimité de chacun.
Ouais.
Il y en a qui peuvent tout à fait trouver des corps nus en collectivité érotique. De toute façon, ça dépend au point de vue des fantasmes que chacun développe.
Pas exagérer non plus, y a
mais
pire.
Pour nous, effectivement, le référent du corps nu et collectif, et le
oui,
référent, c'est celui c'est du sûr. Camp de concentration. Hein.
Oui, tout le problème, il est là, surtout lorsqu'on voit des personnes âgées. C'est sûr qu'on a...
Il y a plein de jeunes filles charmantes aussi dans votre film.
Oui, oui, oui. Non, mais on a tout à fait en mémoire ces images-là. Mais en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi de montrer que par rapport... Tout à l'heure, on a parlé de la nudité comme ça, fascisante. Et en fait, c'est vrai qu'en Allemagne, il y a eu... tout à fait l'amalgame de il fallait être beau, arien, bien foutu, jeune, sportif,
là, cas,
tout ça, etc. Et en fait, ce qui est intéressant dans le naturisme, en tout cas, comme il se pratique aujourd'hui, c'est que c'est si vous voulez, c'est... Ça admet complètement, chacun peut vivre sa nudité de façon complètement collective et on peut être moche, gros, vieux, tout ça, etc. Et tout le monde est admis. Bon, c'est pas aussi idyllique que ça parce qu'évidemment, il y a toujours...
Et d'un point de vue cinématographique, Robert Salis, j'ai eu le sentiment, peut-être que je me trompe, hein, qu'il y avait chez vous, dans votre façon de filmer ces corps nus, un petit peu comme un embarras, justement. Hein, un embarras, on le voit très souvent dans les entretiens qui rythment le film avec les différents naturistes. On voit une sorte d'hésitation entre un portrait qui serait peut-être une forme un petit peu bête, puisque le portrait ne prendrait donc que la tête, qui est celle que nous avons tous en commun, habillée ou non, et un plan plus large qui n'est là finalement que pour montrer du corps nu. Parce que c'est le sujet. Est-ce que vous avez éprouvé quelque chose de semblable ?
Non, non, je ne pense pas. Là, c'est votre point de vue. Moi, je ne pense pas qu'il y ait eu un embarras. Le fait est qu'on a filmé les personnes. Si vous voulez, j'ai souhaité filmer les personnes de la façon qui les mettait la plus à l'aise possible. Et en fait, c'est vrai qu'en contrepoint, par exemple, j'ai... fait certaines poses un petit peu académiques, si vous voulez, comme oui. les
jeunes filles, les jeunes filles languides.
Voilà, mais en fait, ce qu'on me reproche aussi, c'est...
Qui sont même un peu corps morcelé, moi, je trouve. C'est même un peu... Certains mais... gros plans de seins, de bouche, tout d'un coup, ça arrive.
Oui,
l'objet
oui, puis...
partiel, là.
Puis en plus,
hein qu'est-ce que vous avez fait, là? N'avez pas honte?
Non, non, mais... C'est... Et aussi, par rapport à la façon dont j'ai filmé les hommes, jusqu'à présent, moi, j'ai voulu les filmer comme jusqu'à présent, filmer les femmes, c'est-à-dire de façon un peu alanguie, offerte. Et en fait, ça dérange beaucoup d'hommes parce que ça remet un petit peu en cause leur image de la virilité.
Catherine Anthony.
Oui, alors moi, c'était tout à l'heure dans mon acheminement, là. J'en arrivais donc à nouveau à la vision donc, de l'homme du 19e siècle, et puis celui du 19e, et celui du 19e et celui du 20e, sur donc, le corps dévoilé et sur les images qui ne sont pas érotiques du tout. Donc. Mmh. Et alors, il a été cité tout à l'heure, j'y reviens, hein, le livre sur le rivage d'Alain Corbin. Je trouve que c'est très intéressant ce que je vais lire, non seulement sur ce que l'on sait des hommes, mais finalement sur... la façon violente d'exprimer leurs pensées à nos maîtres. Donc, il parle des femmes de pêcheurs. Femmes de pêcheurs, hâlées, précocement ridées, rendues puantes par le maniement des fruits de la mer, la femme exhibe ses jambes, non pour exciter à la concupiscence, mais bien parce qu'elle demeure proche de l'état sauvage. Sa piété, la fidélité conjugale dont elle fait preuve, l'absence de toute parure, attestent la pureté de ses intentions. Devant cette nudité naïve et laborieuse, antithèse du savant déshabillage de la courtisane, le voyageur ne saurait avouer, sinon éprouver, l'ébranlement de sa sensualité. Et j'en viens dans mon livre à la déclaration, à mon sens, très intéressante d'une call girl d'aujourd'hui, Anaïs, qui affirme « Ce qui fait la force de la femme, c'est son sexe sexuel ». C'est-à-dire la puissance de sa pensée mise au service de son désir d'emprise. En aucun cas son sexe animal, qui lui ne vaut pas grand-chose, même pas sur le marché de la galanterie. Voilà.
Robert Salis, sur cette animalité.
Est-ce que vous voyez que c'est contradictoire avec votre film, Robert Salis, ou pas? Vous percevez que ce que vient de dire est contradictoire avec votre film?
Moi, je serais pas aussi tranché que Catherine Anthony. En fait, les naturistes, de toute façon, le mouvement naturiste est évidemment une utopie. Ils savent tous que de toute façon, ils vont pas vivre en société complètement nue et faire une société nue. Ça, c'est tout. Ils le savent tous, mais ils veulent se privilégier des instants, si vous voulez, de tranquillité. Et c'est pour ça que, par rapport au mouvement nudiste où de plus en plus de personnes sont émettre nues sur les plages, eux, les naturistes, restent groupés.
Merci à tous les deux. Je rappelle, Robert Salis, le titre de votre film, À la recherche du paradis perdu, sous-titre Vivre nu. Catherine Anthony, le titre de votre livre, L'amour aujourd'hui, aux éditions du Cherche Midi.
Au tempo de Joey Clausel. Alors Jean-Claude Kaufmann, bonsoir.
Bonsoir.
Alors donc vous êtes sociologue et vous vous occupez aussi de la nudité. Vous avez fait un livre qui a été une date un peu dans la réflexion sur la nudité parce que vous êtes spécialiste de la famille et de la vie quotidienne et que ce livre concerne justement corps de femme, regard d'homme, la sociologie des seins nus.
Quand c'est, oui, sorti, c'est qu'une partie du nu, hein, juste le haut.
Oui, mais quand c'est sorti, ça a été un événement, parce que qu'un sociologue s'intéresse à ça de près, ça étonnait beaucoup. Vous avez d'autre part travaillé les relations conjugales à travers le prisme du linge, et vous avez travaillé sur le ménage. Vous étiez venu à Staccato, d'ailleurs, pour ce livre sur le ménage, il y a quelques mois. Alors, moi, ce qui me frappe d'abord, c'est que votre travail est un travail d'enquête. C'est-à-dire que vous avez d'abord voulu savoir ce qui se passe sur les plages, et pendant 2 ans, vous avez enquêté sur les plages, en Normandie et en Bretagne, pour savoir et comprendre pourquoi un certain nombre de femmes se mettaient les seins nus.
Et alors, ce que vous récoltez est d'une banalité absolument écœurante, si vous me permettez. D'abord, on dit pour le bronzage, on aime bien ne pas avoir de marque disgracieuse. On aime bien être libre parce que libre pour chacun, pour chacune d'entre nous de faire ce qu'elle veut, c'est quand même tout à fait positif. D'autre part, le bien-être est si naturel qu'on n'attire pas l'attention et ce qui compte, c'est le bien-être. Alors quand on lit tout ça, on se dit que ce qui caractérise ce problème, c'est l'absence de pensée. Vous me direz que c'est curieux de faire une émission un peu de recherche et de réflexion sur l'absence de pensée, mais c'est curieux aussi pour un sociologue de faire un livre sur quelque chose où il y a une absence de pensée.
C'est pas qu'un livre. Moi, je suis sociologue au CNRS et mon thème de recherche, c'est la banalité. Ah, c'est les choses dont chacun dit qu'il n'y a rien à en dire. Hein. C'est mon thème habituel. Quand je travaille sur le ménage, quand je travaille sur la question pourquoi faut-il passer le balai et quand faut-il passer le balai, on est dans le registre de la banalité. Quand on arrive à creuser, en dessous, ça devient extraordinairement complexe et intéressant. Donc je pars toujours du banal. Là, sur la plage, c'est un peu de vacances pour moi, je pars d'une banalité qui n'est pas si banale que ça. Pourquoi ?
Quand même, écoutez, le culte du corps, la promotion du bronzage, la libération des femmes, l'attrait des bains de mer,
non,
il n'y a pas besoin d'être sociologue pour dire ça.
Il y a des choses qui intriguent un petit peu quand même. Pourquoi ce corps demi-nu sur la plage ne pose pas problème et puis un tout petit peu plus loin va poser problème. Et la réaction des gens, quand j'ai commencé mon enquête, a été la réaction par rapport à la banalité. Au tout début, ça a été très bien parce que sur la plage, on a du temps, on n'est pas dérangé. Quand je frappe aux portes pour mes enquêtes sur le ménage, c'est un petit peu différent. Souvent, je dérange un petit peu. Là, au contraire,
les gens étaient contents de vous répondre. Contents.
J'étais avec une équipe de 5 enquêteurs. On nous voyait un petit peu de loin. Et il y a plusieurs personnes qui sont venues nous chercher en disant on est là-bas sous le parasol bleu. Après, vous pouvez venir vous voir. On a l'habitude les sondages. On était identifiés comme sondeurs. Ça, c'est plus courant que l'enquêteur universitaire. Mais enfin, c'est tout à fait proche. Et donc, j'allais voir ces gens ensuite. Et alors, c'est sur quoi ? Ils étaient très intéressés, motivé, et j'annonçais, c'est sur les seins nus, sur les plages, et là, aussitôt, déception immédiate. Ah bon ? Déception, parce que d'une part, ça semblait un petit peu passé de mode, j'avais l'air de retarder un petit peu, et tout de suite arrivait l'argument choc, j'ai rien à vous dire là-dessus. C'est d'une banalité totale, et moi, je ne vais rien pouvoir vous dire. Et effectivement, quand on travaille sur la banalité, il faut avoir des armes pour accrocher les réponses des gens. Et parmi ces armes, il y a notamment, quand on comprend bien un sujet, on voit les contradictions intérieures. Donc, je savais qu'il y avait des réponses impossibles. Donc, je posais des questions simples sur des réponses impossibles. Par exemple, celle-là, je vous donne celle-là. Est-ce que les hommes regardent ou pas ? Est-ce que les hommes regardent d'un œil intéressé ou pas ? Alors, les gens qui étaient déjà un petit peu en arrière sur leur serviette, qui répondaient un petit peu de loin, désabusés, commençaient par dire « Oh non, non, mais maintenant, il y en a tellement, plus personne ne fait attention, non, non, les hommes ne regardent pas. » Et il me suffisait des fois de relancer un petit peu, mais ils ne regardent pas quand même. Un petit peu. Oh, ben bien sûr, les hommes restent des hommes. J'ai dit, attention, vous venez de me dire, les hommes ne regardent pas. Et tout de suite après, ils regardent quand même. Alors, ils regardent ou ils ne regardent pas. Ils ne pouvaient pas me répondre parce qu'en fait, il y a un type de regard.
Regarder sans regarder.
Regarder sans regarder. Et petit à petit, par bribes de phrases, les gens m'ont expliqué le type de regard de l'homme qui est très codé, en fait. Il y a un type de regard. Et un homme qui arrive sur la plage, qui, admettons, ne connaît pas les rituels de la plage, il lui suffit de regarder deux, trois coups et il comprend tout de suite comment il faut regarder. Alors, je peux décrire très rapidement ce type de regard. C'est un regard vide, sans expression et flottant sur le paysage, glissant sur le paysage, y compris les seins nus. Surtout ne pas éviter de regarder les seins nus, ce qui signifierait qu'il y a un interdit, quelque chose de pas clair derrière, mais quand il passe sur les seins nus, glissant. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir. Parfois, le regard peut être accroché dans des circonstances très précises. S'arrêter, mais pas trop longtemps non plus. Tout ça est contrôlé.
Nicolas Martin.
Non, c'est un détail, mais autre contradiction, vous parliez du bronzage, la technique du bronzage par exemple, qui est tout à fait irrationnelle, est en fait présentée, vous l'expliquez, en des termes scientifiques, sans doute manière de conjurer les méfaits du soleil, le cancer, etc.
Alors là, on est très embêté. Souvent, dans la vie quotidienne, on gère des contradictions. Dans la construction de son identité, on gère des contradictions. Et là, il y a quelques années, c'était parfait. La plage, c'était parfait. Jean-Didier Urbain nous en a parlé. C'était un plaisir. Et notamment, il y avait le soleil. On venait pour se griller. Ça faisait du bien. On se sentait bien au soleil. Et là, d'un seul coup, on reçoit un message des scientifiques, des dermatologues qui nous expliquent que c'est dangereux, que c'est mauvais. Et les dermatologues qui s'énervent, qui disent on explique ça et les gens continuent à aller se griller. Mais non, les gens écoutent. Ils sont très au courant. Ils sont très au courant de ces dangers, mais en même temps, ils ont envie de soleil. Et ils essaient de gérer cette contradiction. Et en fait, chacun a ses gris-gris, ses petits trucs. Alors, Moi, oui, mais attention, je ne m'expose pas à telle heure et à telle heure, ou alors je mets un petit peu de crème. C'est un geste, un rituel qui protège dans la tête. Ou alors telle personne qui dit, mais moi, tous les 20 minutes, je vais me baigner. Et là, je sais que je suis protégé comme ça. Il suffit d'avoir une idée pour être tranquillisé dans sa tête.
Alors, ce que vous nous montrez, Jean-Claude Kaufmann, c'est que derrière ces évidences de ce que disent les gens à propos de leur attitude vis-à-vis des seins nus et du corps nu, enfin, des femmes, se cachent des rites, des normes, des codes extrêmement précis. Et un peu dans la lignée de Norbert Elias, il y a chez vous l'idée que, d'une certaine façon, les normes sont intériorisées, elles ne sont pas imposées de l'extérieur, mais elles sont intériorisées, vécues, ce que vous avez dit tout à l'heure sur le regard qui glisse et qui s'arrête rarement, on va y revenir, ça fait partie de ces normes. C'est-à-dire elles sont incorporées, elles sont fondues dans un conformisme extrêmement précis.
Extrêmement précis et qui fait un petit peu peur, c'est un peu effrayant. C'est un livre qui n'est pas très drôle, hein. On en sort un petit peu bousculé et la plage apparaît sous un jour qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais en même temps, elle est aussi ce lieu de liberté que décrit très bien Jean-Didier Robin, qui l'a très bien expliqué. C'est-à-dire qu'on ressent cette liberté, au moins cette liberté apparente. Mais une société ne peut pas vivre sans règles du jeu.
Alors les règles, par exemple, c'est les limites spatiales. Dès qu'on bouge du sable, top, il faut s'arrêter. Alors là, il faut couvrir les seins, évidemment. Ouais. Limite spatiale. Ensuite, limite comportementale. Vous expliquez qu'il y a des manières d'enlever le haut. Par exemple, en général, on préfère enlever le haut quand on est allongé sur le sol plutôt que debout. Ou bien alors, si on va bouger, c'est qu'on est en train de régler le parasol ou qu'on est en train de faire une activité extrêmement précise.
Tout est codé. Et alors, c'est un code qui change historiquement. Par exemple, comment se déshabiller quand on arrive sur la plage? Il y a eu des évolutions historiques assez rapides. Il y a quelques dizaines d'années, il y avait les cabines en bois très jolies qui restent pour le décor de la plage, qui ne sont plus utilisées. Puis, il y a eu l'invention de la cabine en éponge qui vous serrait en haut du cou et puis qui était très commode pour cet exercice de déshabillage, mais qui aujourd'hui, il y a encore quelques personnes qui l'utilisent. Il faut leur dire très très vite parce que on s'exprime très peu sur la plage, mais là, quand il y a une cabine en éponge, on s'exprime parce que ça fait rigoler tout le monde très très fort. Donc ça stigmatise, ça prouve qu'on n'a pas compris qu'il faut être très décontracté, ne pas avoir peur de la nudité sur la plage. Donc autre possibilité.
Décontracté, codé.
Mais c'est les deux en même temps. Il faut intérioriser le code pour être décontracté. Alors on a évolué ensuite vers la serviette que l'on attache autour de soi pour se déshabiller. Mais il faut pas trop l'attacher. Si on l'attache trop, ça veut dire justement qu'on est un peu coincé, qu'on a peur. Si on l'attache pas assez, elle risque de tomber. Si elle tombe, si on la ramasse trop vite, pareil, on est un petit peu coincé. Mais si on la ramasse trop lentement, on peut être taxé d'exhibitionnisme. Alors on évolue actuellement vers un type de manière qui est beaucoup plus à la mode, qui consiste à se déshabiller sous les vêtements, par exemple. Mais c'est plus commode pour les femmes que pour les hommes, quoi. Et les hommes tentent d'innover le fait de se déshabiller en se mettant nu quelques fractions de secondes très rapides. Et la plage observe. La plage observe et est admirative devant les artistes qui réussissent ça, c'est-à-dire qui réussissent à le faire sans que l'on ait le temps de voir le nu, mais sans montrer un affolement. Il y a une grâce, une esthétique, une compétence des mouvements.
Nicolas Martin.
Alors Jean-Claude Kaufmann, pour en revenir au sein nu, la raison pour laquelle il faut se mouvoir de façon extrêmement précise, c'est parce que justement, il ne faut pas que les seins s'agitent, ils doivent rester stables et sereins.
Oui, ils doivent rester stables, sereins. Enfin, ça dépend dans quelle catégorie on est. Suivant son âge, suivant sa morphologie, suivant le contexte de la plage, on est dans une catégorie précise. Alors, c'est énorme. Tout le monde va commencer par dire, il n'y a pas de règles du jeu. Il n'y a pas de règles du jeu. Chacun fait ce qu'il veut. Et puis quand on creuse les questions, mais ceci on peut le faire, on obtient les règles du jeu qui sont les mêmes, qui sont partagées par tous.
Soyez net, tout à l'heure vous avez dit, mais il a raison mon collègue Urbain de parler de liberté, vous êtes en train de dire exactement le contraire d'Urbain, de ce que Urbain disait en première partie dans Staccato, en nous disant que ce qu'il emportait à la plage c'était la liberté, vous nous dites exactement le contraire avec un gentil sourire, mais c'est exactement l'opposé.
Mais il y a les deux à la fois, c'est très contradictoire la plage, c'est-à-dire qu'il y a l'espace de la liberté, surtout quand on s'endort un peu sur la plage, qu'on ferme les yeux, là on est totalement libre. C'est quand on ouvre les yeux, parce que tout se passe par le regard, donc là on rentre dans les codes de classement et dans la règle qui s'impose et qui effectivement est très dure et très cruelle parce qu'elle exclut des catégories de personnes.
On va y revenir, mais vous dites qu'il n'est guère d'endroit aussi structuré par le jeu du paraître, parce que le regard, c'est pas seulement le regard, c'est le paraître sur la plage.
Oui.
Alors je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu quel est ce jeu entre le regard et le paraître.
Bien, le regard capte des informations qui permettent le classement pour vérifier si on a la bonne position par rapport aux bonnes catégories. Alors, du coup, se dessine, à partir de quoi se fait ce classement ? À partir d'une idée de la... C'est venu très vite dans les réponses. Quand les gens étaient un petit peu coincés, n'arrivaient pas à répondre, ils disaient « c'est parce que c'est beau ou c'est pas beau ». C'est la beauté qui définit le classement. Mais alors, la beauté, alors là, on rentre dans quelque chose qui devient sans fin. C'est un code de beauté, c'est une certaine définition de la beauté très restrictive, très étroite, à partir de quelques critères. Sinon, on ne pourrait pas classer.
Alors justement, s'agissant de ces critères, il y a quelque chose qui est assez effrayant, c'est qu'il y a presque une vision marchande des seins, puisque vous dites qu'il faut... Il est question de volume, de fermeté, de hauteur du sein. Par moment, on a l'impression qu'ils sont appréciés à l'aune des critères qui président au choix des fruits et légumes. C'est assez effrayant.
C'est pas purement marchand, parce que par exemple, le volume, c'est pas le plus fort volume qui est positif, parce qu'il y a par exemple la catégorie du trop beau sein. La catégorie qui marche, c'est le beau sein normal. Alors ça, les gens ont très bien défini. Le beau sein normal, c'est celui qui permet au regard de glisser, quoi, hein. Alors là, les critères sont... Donc, la personne qui va avoir, la femme qui va avoir la plus grande liberté de mouvement, parce que plus on est proche de la catégorie parfaite, plus la liberté de mouvement est grande, plus on retrouve le paraître. C'est-à-dire, on peut s'afficher avec la plus grande liberté. On occupe les premiers rangs à ce moment-là sur la plage, quoi, hein. Alors, les tout premiers rangs, il faut rajouter des critères en plus. Par exemple, faire du sport, ça, c'est pas donné à tout le monde. Faire du sport seins nus, il faut en plus ajouter un corps musclé, sportif, et la compétence technique. Faire du volley en ratant la balle, exhibitionnisme. Ou de la planche à voile, pareil, avec la voile qui retombe tout le temps, ça non plus. Il faut en plus la compétence sportive et le corps musclé. Mais en dehors du sport, si on veut, par exemple, la position debout et pouvoir marcher, alors marcher sur la plage, là, il faut être le plus proche du beau sein normal, avec un certain nombre de critères. Et là, c'est pas d'abord le volume, c'est d'abord la hauteur. Plus c'est haut, plus c'est beau. C'est absolument terrible. Parce que c'est des éléments de classement, hein. Et effectivement, après, la fermeté qui vient. Parce que quand ça bouge, ça accroche le regard, tout simplement.
Alors Jean-Claude Kaufmann, on a voulu aller voir, nous aussi, faire nos petits sociologues sur la plage. On a recueilli, bien sûr, des éléments qui montrent qu'il y a toujours une certaine gêne concernant le textile. Les textiles qui s'inquiètent de ceux qui enlèvent le textile, dans le moins le haut. Et Yves Canvet, donc, a joué des entomologistes sur une plage de la Baule.
Est-ce que ça vous arrive de regarder des femmes qui ont les seins nus, ne serait-ce que par curiosité, sur la plage ?
Oui, mais sans plus, sans plus. Quand il y a des belles poitrines, on regarde. Quand c'est moins beau, ben on regarde pas, puis voilà.
D'accord.
Ce matin, hier, il y avait
une dame qui était nue.
Il n'y en a pas toutes nues, hein, il y en avait trois qui avaient le sein nu.
Est-ce que, alors, vous la regardiez ou...
Non. Vous mieux pas.
Parce que c'est pas très intéressant.
Est-ce qu'il y avait des gens qui la regardaient ?
Bah oui, il y en avait quelques-uns.
Tu les regardes ?
Non.
Bah à quoi ça sert votre truc ?
Moi je sais que je le ferai pas. Parce que je suis pudique et puis.
C'est bien, c'est mignon. Puis ça fait partie des choses. Donc c'est fou rabat, de toute façon on est là pour ça. Et puis c'est agréable à voir et puis c'est beau. Moi j'aime bien ça, c'est beau.
Si votre amie se mettait seins nus, est-ce que ça vous plairait ?
Si elle veut pas se mettre, ça, elle estime que c'est bien de se mettre nu, de montrer ses seins. Donc je ne l'approcherai pas. Mais je pense qu'elle ne le ferait pas vis-à-vis de moi, bien parce que elle m'aime trop et puis c'est pas possible, je veux dire. Mais elle ne ferait pas ça. Elle m'appartient à moi, donc je préfère la garder pour moi. C'est pas pour les autres. Ma femme, j'ai pas non plus. C'est vrai que j'ai pas la. C'est pas une. Un mannequin ou bien une photo, une statue que je mets pour que les... Non.
Moi, personnellement, j'aimerais bien être sur la plage, les seins nus. Mais simplement, lorsque je vois les regards des hommes, ça me gêne beaucoup.
Monsieur Palomar marche le long d'une plage déserte. Il rencontre de rares baigneurs. Une jeune femme est allongée sur le sable et prend le soleil les seins nus. Palomar, un homme discret, détourne son regard vers l'horizon marin. Il sait qu'en pareille circonstance, à l'approche d'un inconnu, les femmes souvent se hâtent de se couvrir, et cela ne lui semble pas bien. C'est dérangeant pour la baigneuse qui prenait tranquillement le soleil. Le passant se sent un gêneur, le tabou de la nudité se trouve implicitement confirmé, enfin, le respect des conventions à moitié est source d'insécurité et d'incohérence dans le comportement, plutôt que de liberté et de franchise. Cependant, pense-t-il, en avançant et en rendant leur liberté de mouvement à ces globes oculaires, dès que l'horizon est dégagé, ainsi faisant, j'accepte un refus de voir, c'est-à-dire que je finis moi aussi par renforcer la convention qui considère comme illicite la vue d'un sein, ou plutôt, j'institue une sorte de soutien-gorge mental suspendu entre mes yeux et cette poitrine qui m'a semblé fraîche et agréable à voir, d'après ce que j'en ai entrevu aux limites de mon champ visuel. En somme, ma façon de ne pas regarder présuppose que je suis en train de songer à cette nudité, que je m'en soucie. Et il y a là, au fond, une attitude rétrograde, indiscrète.
Monique Veitel lisait là un texte que vous connaissez bien, c'est Palomar, bien sûr, une nouvelle d'Italo Calvino. Jean-Claude Kaufmann, on retrouve à peu près la problématique de votre livre.
Oui.
C'est-à-dire regarder sans regarder,
oui,
et puis le soutien-gorge mental.
Une toute petite différence, c'est que Palomar, Monsieur Palomar, théorise beaucoup. C'est très concordant avec les thèses de l'enquête. Hein. Calvino a été vraiment un sociologue extraordinaire. Mais l'homme moyen, l'homme ordinaire, marche plus à l'instinct, je dirais. Et à la réflexion un petit peu rapide sous la torpeur un petit peu estivale. Sur la plage, on ne se prend pas la tête en général. On marche à l'instinct et à la réflexion rapide.
Nicolas Martin.
Alors dans ce reportage, il était question du regard qui est posé sur les seins nus, mais il y a aussi le regard des femmes. Et dans votre livre, vous expliquez que le regard des femmes, il n'est pas neutre, il est différent, mais il est contradictoire.
Oui, il y a deux groupes de femmes, ça c'est tout à fait net. Alors les femmes s'expriment beaucoup plus fort et beaucoup plus net, parce que elles n'hésitent pas à laisser le regard se poser sur les seins des autres femmes. Elles regardent, c'est un regard en miroir, c'est par rapport à elles-mêmes qu'elles s'interrogent en regardant. Et il y a les femmes, alors les deux catégories, il y a des femmes admirative de la beauté, qui regarde la beauté, qui ne cesse de regarder la beauté et qui la décrivent dans des termes très élogieux. Et puis une autre catégorie un peu plus importante, alors de femmes, à les écouter, la plage est un paysage de désolation, où on ne voit que des horreurs vraiment qui dépassent l'imaginable.
Jean-Claude Kaufmann, ce qui est très frappant dans votre livre, c'est l'idée selon laquelle le nu implique la retenue. C'est-à-dire que en face du nu, vous disiez tout à l'heure, le regard glisse, et je voudrais que vous continuiez sur ce regard qui glisse. Et donc la retenue, par exemple, c'est l'histoire de ces deux garçons que vous racontez, qui font demi-tour lorsque la jeune fille qu'ils voulaient aborder retire le haut de son maillot. Et à ce moment-là, ils font demi-tour, parce que ils sont pas à l'aise. Alors, ils ne veulent pas, au fond, être pris dans une situation de voyeurisme, et ils ne veulent pas non plus donner l'impression qu'ils pourraient désirer cette fille.
Oui, dans tout le code, dans les règles du jeu, il y a la distance avec le sexuel, avec l'érotisme. D'autant plus distance que le corps nu est là. Donc il faut montrer, afficher, instaurer la distance. Or, la démarche de séduction va aller à l'inverse. Alors comment gérer cette contradiction? C'est possible, mais ça rend les choses beaucoup plus difficiles.
Alors du point de vue de la conjugalité, vous dites des choses aussi assez contradictoires. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a le mari, on a entendu un tout à l'heure, qui ne veut pas que sa femme montre ses seins, parce qu'il dit les seins de ma femme, c'est pour moi tout seul.
Ouais.
Et puis il y a l'autre, au contraire, qui veut que sa femme exhibe ses seins.
Oui, mais les deux groupes sont assez bien identifiés dans les classes d'âge. Ah. Alors ce sont deux groupes minoritaires, quand même, il faut bien le dire, parce que pour la majorité, le mari n'intervient pas. Ah, c'est la femme seule qui décide, et quand je lui pose la question, elle dit « de toute façon c'est mon corps et c'est à moi seul de décider ». La plupart du temps, il n'y a pas de discussion à l'intérieur du couple pour savoir si la femme va faire ou pas. Elle sent l'envie, et c'est quand elle a envie qu'elle le fait. Et quand elle sent également, parce qu'il y a très peu de discussions, que son mari n'a pas l'air très à l'aise, qu'il n'est pas tout à fait d'accord, elle enlève le haut quand il n'est pas là, elle remet quand il est là. Quoi. Ce qui trouble un petit peu les frontières du privé et du public. Et sur les deux groupes dont vous parlez, les hommes un petit peu jaloux qui sont contre, en général ce sont des jeunes hommes. Hein. Alors, on a entendu tout à l'heure, c'était exactement ça. Hein. C'est ma propriété, hein. C'est pour moi, hein, moi tout seul. Et puis il y a une catégorie un petit peu inverse d'hommes qui poussent leurs femmes à pratiquer les seins nus, à enlever le haut. Alors c'est en général souvent vers 35-40 ans. Et là encore, c'est une démarche égoïste, individualiste, du point de vue de l'homme. Il y en a un autre homme là que j'interroge qui dit c'est comme s'ils avaient une belle bagnole, ils veulent...
Ils sont fiers de
montrer leur femme. Elle peut encore se classer dans la bonne catégorie. Et en plus, ils affichent une modernité. On est un couple qui peut se permettre de rentrer dans ce type de comportement.
Nicolas Martin.
Alors il y a autre chose, Jean-Claude Kaufmann, qui est très intéressant, c'est que vous dites dans ces regards échangés, ce sont aussi des histoires conjugales sans suite. Et vous en concluez que finalement, peut-être que la formation d'un couple est un non-événement, rétrospectivement. Et je trouve ça très intéressant. Et je me suis demandé si, par exemple, dans Le Mépris, vous savez, les personnages disent toujours « Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ?» comme s'ils savaient confusément que c'est un non-événement dans le film de Godard, oui.
Oui, mais non, mais le couple, vous savez, on essaie maintenant, autrefois le couple commençait par le mariage, on essaie de dater les débuts maintenant, et on n'arrive pas à savoir quand ça commence. Hein, et quand un couple, finalement, c'est un couple qui dure, c'est un couple qui ne s'arrête pas d'une certaine manière, effectivement. Mais sur la plage, c'est compliqué. Là, j'ai une petite divergence avec Jean-Didier Urbain. Effectivement, c'est pas un grand lieu de la séduction, la plage. Ou alors, c'est le lieu d'une sensualité, d'un érotisme lointain et anonyme dans les regards, dans le jeu des regards lointains. La femme qui sent un regard anonyme et lointain sur elle, mais pas direct. Quand il se pose, ça va être autre chose. Et ces règles du jeu dont je parle, elles bougent parce qu'elles sont en travail tous les jours. C'est par le comportement des gens qu'elles évoluent. Et il y a une différence entre hommes et femmes. Les hommes souhaiteraient que ça aille un peu plus loin. Ils souhaiteraient notamment qu'il y ait des échanges de regards, comme il peut y en avoir dans la rue. Et les femmes ne sont pas d'accord. Elles veulent avant tout leur tranquillité, être seule avec leur corps et avec cette sensualité anonyme et lointaine. Et elle préfère qu'il n'y ait pas justement l'échange de regards sur la plage.
Oui, il y a un point très important, c'est l'intense personnalisation du corps. C'est-à-dire le fait que c'est mon corps à moi que je montre éventuellement et que ce support est absolument essentiel pour mon identité biographique et vous montrer qu'il y a quelque chose d'essentiel dans le rapport de la femme à son corps qui l'emporte sur tout le reste et qui l'emporte sur le jeu des regards.
Oui, je crois qu'on a vraiment pas encore tout dit sur le corps. Hein. C'est quelque chose d'énorme. Et on sait bien, c'est une banalité, encore une fois, de dire qu'il prend une place considérable dans la société aujourd'hui, de plus en plus, mais notamment par rapport au processus de l'identité. Je crois que là, il y a encore à réfléchir beaucoup. Notre construction identitaire est de plus en plus éclatée et complexe. Hein. Nous avons une personnalité de plus en plus ouverte, complexe, contradictoire. On ne sait plus exactement où on en est. Et c'est une manière de bien marquer la frontière. Et marquer également la densité de la personnalité, de l'identité. On est soi parce que on peut définir par la limite de la peau. C'est ce corps, l'exercice sportif, c'est la même chose. Se dépasser un petit peu dans le mouvement qu'on sent en soi, c'est se sentir très concrètement soi, très, et avec une frontière. Et ça, c'est le corps qui résume ça, mais il y a bien d'autres choses. On voit bien, par cette enquête sur la plage, comment le corps est une machinerie à recevoir des informations et à penser sans penser d'une certaine manière. Le corps, c'est une manière rapide de parler, hein, c'est des parties du cerveau archaïque. Hein, les neurologues diraient le corps, qu'est-ce que ça veut dire? Mais la manière rapide de parler, on peut dire le corps. Il faut de plus en plus travailler son corps, avoir un corps souple, parce qu'il joue un rôle grandissant dans notre société.
Jean-Claude Kaufmann, vous expliquez aussi très bien que les codes sont tellement intériorisés que celui qui est en surcharge pondérale va tellement intérioriser sa différence que finalement, il va le plaisir d'être sur la plage va s'émousser. En quelque sorte, il va s'auto-exclure.
Oui, surtout celle. Hein, c'est encore plus fort, nettement plus fort pour les femmes. Alors, j'avais dit tout à l'heure, la position la plus libre qui n'est pas donnée à tout le monde, c'est d'être debout, seins nus et de marcher sur la plage. Mais ensuite, il y a tout un dégradé. Après, on est simplement assis. Et puis, si on est moins près du code du bassin normal, on est couché sur le dos. Après, c'est couché sur le ventre. Ensuite, c'est avec le haut de maillot. Et puis, encore plus loin, on peut aller encore plus loin, habillé sur la plage. J'étais très surpris. Moi, je voyais des gens habillés sur la plage. Je croyais que c'était simplement, avant que je fasse l'enquête, qu'ils souhaitaient ne pas se mettre en maillot. Mais il y avait dans ces gens des personnes qui auraient souhaité se mettre en maillot, mais qui ne le faisaient pas parce qu'elles pensaient avoir 3-4 kilos de trop. C'est pas 50 kilos de trop. Elle pensait avoir 3-4 kilos de trop et elle sentait les regards sur elle et les interprétait de cette manière-là dès qu'elle se mettait en maillot.
Jean-Claude Kaufmann, ce processus d'exclusion, qui est absolument fondamental, il est lui aussi intériorisé. Alors vous avez parlé de cette femme qui a 3-4 kilos, mais c'est encore pire, encore plus grave pour celle qui se juge trop vieille.
Ah oui, alors...
et qui à partir d'un certain moment dit « mes seins ne sont plus suffisamment beaux pour être montrés, pas seulement alors donc pour le gros, mais aussi pour la vieille ».
Alors oui, et puis alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot vieux et ce mot vieille, surtout? J'ai une phrase, c'était de jeunes garçons là qui sont interrogés, ils ont dans les 18 ans par là. Ils disent oui, les vieilles femmes de 25 ans. Et l'enquêteur est entraîné pour rester un petit peu neutre, mais là il y a ses yeux qui s'écarquillent un petit peu, dit, oui, enfin 25-30 ans quoi. La vieillesse commence à 25 ans sur la plage, quoi. Donc c'est tout à fait terrible.
Non, pour ces jeunes-là.
Pour ces jeunes-là. Mais il n'empêche que c'est le cœur du code, le modèle idéal, c'est en fait les seins de l'adolescente, qui elle-même est mal à l'aise avec son corps d'ailleurs, elle va peu se mettre seins nus, quoi. Et on est très très vite exclu. La vieillesse commence très vite et l'exclusion est très forte. Alors,
vous voulez dire qu'il n'y a qu'une toute petite minorité qui est vraiment très à l'aise ?
Il n'y a pratiquement personne, parce que complètement dans le modèle, c'est l'adolescente qui elle-même n'est pas à l'aise avec son corps, quoi. Donc il faut, en fait, chacun est en lutte contre lui-même pour trouver cette aisance, pour trouver les positions autorisées à partir de l'aisance. C'est pas facile, la plage.
Alors vous allez me dire que c'est pas votre métier, mais qu'est-ce que vous conseillez à nos auditrices, de se mettre seins nus ou de pas se mettre seins nus sur la plage ?
Ah non, alors là, je répondrais heureusement comme... Alors, 300 personnes ont été interrogées sur la plage. Parmi les adultes, les enfants, ça a été extrêmement difficile parce qu'ils étaient très gênés, très vite.
Ils
s'en est très bien sortis, lui. Mais ceux que j'ai interrogés, ils avaient beaucoup de mal. Ils avaient l'impression d'un seul coup, avant, ils étaient là en train de rigoler sur la plage. Et puis quand on les interroge, ils avaient envie aussi devant le micro, ils se sentaient très à l'aise. Et dès qu'ils se sentaient la question, d'un seul coup, ils avaient l'impression d'un code extrêmement compliqué, propre au monde adulte, et donc ils n'avaient pas encore les clés, et ils étaient très mal à l'aise. On a arrêté les interviews d'enfants. Mais à part eux, les adultes ont presque toujours sorti la même phrase avec les mêmes mots. Chacun fait ce qu'il veut. La phrase précise et plus précise, c'était celle-là. Chacun fait ce qu'il veut, mais... Exactement comme je ne suis pas raciste, mais c'est-à-dire un langage à deux niveaux. Le niveau officiel, la tolérance, qui est réelle. Il faut que chacun puisse faire ce qu'il veut. Mais, c'est vrai, surtout, une vieille grand-mère, là, faut bien le dire, une vieille grand-mère essuie des descriptions apocalyptiques, c'est affreux, c'est pour elle que je dis ça. D'ailleurs, si elle veut le faire, elle fait, chacun fait ce qu'il veut. Mais faut le dire, franchement, donc chacun fait pas ce qu'il veut.
Merci Jean-Claude Kaufmann. Alors, je rappelle que votre livre s'appelle « Corps de femme, regard d'homme, sociologie des seins nus » et qui vient d'être publié aux éditions Pocket, il était avant chez Nathan. Alors cette semaine sort sur les écrans Le Radeau de la Méduse. C'est un film qui a une histoire extrêmement compliquée qu'on ne voit à contre-pas parce que ce serait beaucoup trop long. Le film a été commencé en 87, que dis-je, en 83. Il a été tourné en 87 en Guadeloupe. Il y a eu Hugo, le cyclone. Finalement, c'est épouvantable. Et c'est seulement en 98 qu'il a été distribué. Il n'empêche que nous, on a un objet filmique en face de nous. Alors racontons l'histoire. Le Radeau de la Méduse, c'est bien sûr le radeau qu'on voit dans le tableau de Géricault. L'histoire de ce radeau, c'est que par la faute d'un commandant imbécile et despote qui s'appelle Chaumaret, la Méduse, donc ce bateau, a été envoyé en 1816 par Louis XVIII, installé au Sénégal, le gouverneur Schmalz. Et il s'échoue sur un banc de sable au large de la Mauritanie. Alors bien sûr, de la faute de l'incompétence du commandant, qui est joué par Jean Yann, à bord 5 canots, 150 passagers vont pouvoir s'embarquer dans les 5 canots, mais le premier à s'enfuir de ces 5 canots, c'est, déshonneur de la royale, le commandant qui abandonne donc 140 marins et soldats sur un radeau de fortune. Et c'est l'histoire de ce radeau de fortune qu'on va nous conter dans la deuxième partie du film. Après 14 jours de dérive, on ne retrouvera que 14 rescapés, fureur, troubles politiques en France, Chaumaret va être cassé et va tout juste échapper à la corde. Extrait.
Toujours est-il qu'un voyage d'agrément, commandé par Sa Majesté, devint un désastre unique. Dans l'histoire de la marine, tout est énigme, trouble, 14 jours et nuits en enfer. Alors qu'au départ...
Pourquoi vous, le commandant, avez-vous quitté la frégate avant votre équipage ?
Il est vrai que je ne connais pas grand-chose à la mer, ni à la géographie. Mais 12 jours de Rochefort, 12 jours. C'est presque de la témérité.
Rappelez-vous, commandant, Reynaud et moi, nous avons essayé de vous dire. Mais vous avez tout refusé. La position de la frégate. L'erreur est là, commandant. Et vous le savez très bien.
Imposteur, taisez-vous! Taisez-vous!
Coupable.
Alors vous avez reconnu bien sûr Daniel Mesguich puisqu'il est venu plusieurs fois à Staccato. Il joue dans ce film. Laurent Roth, on a l'impression qu'on passe des galons et de la perruque à la nudité au dépouillement. Aujourd'hui on parle de nudité, la nudité sur le radeau est exploitée de façon très étonnante.
Oui, bah disons que le propos du film, effectivement, est de nous montrer une société qui va complètement se désagréger, et se désagréger sous l'emprise de la paranoïa de ce commandant Chaumareyre, assez remarquablement d'ailleurs interprété par Jean-Yann, qui joue ici un rôle très convaincant de salaud en bas de soie. Et c'est vrai que le film touche, je dirais, un petit peu son point d'impact au moment où Azimi filme enfin ce radeau qui est l'objet de son désir, parce qu'on se dit qu'après tout, reconstituer une superproduction dans des conditions aussi difficiles tient forcément à un pari obstiné et un objet de désir sans doute très fort pour lui. Et je crois que c'est au moment effectivement où on a cette masse indistincte sur le radeau qu'on comprend pourquoi le cinéaste a voulu faire ce film. Alors, ce qui effectivement peut nous surprendre, c'est que cette morbidité qui est présente sur le radeau, où les corps sont mélangés, mêlés, confus, filmés de nuit, et où finalement on se mange, puisqu'il y a cannibalisme sur le radeau de la Méduse, on se dit que, eh bien, cette morbidité est présente dès le premier plan du film. Et ça donne peut-être une clé de lecture de ce film très étrange. C'est que finalement, tout comme Géricault d'ailleurs, qui a immortalisé la scène, Azimi est lui-même un cinéaste hanté par la morbidité. Et quand il filme la pompe, la gloire et l'amour, elle est sans cesse voilée par cette espèce de rapport à la vie où tout est déjà fuyant, lointain, englouti.
Nicolas Martin.
C'est un film d'esthète et je trouve que parfois ce parti pris esthétique entre guillemets fonctionne, d'autres fois non. Vous l'évoquiez à l'instant, par exemple sur le radeau, la nuit, lorsque c'est enténébré, on devine les corps plus qu'on ne les identifie, c'est d'une grande beauté. Je trouve que la scène est réussie, elle plonge le spectateur dans un certain malaise. En revanche, par exemple le cannibalisme que vous évoquiez, je trouve que là on dirait un tableau, on dirait les chirurgiens de Rembrandt, et là ça, je trouve que ça ne fonctionne pas.
Mais c'est-à-dire que le film est encombré de beaucoup de références, celles de la peinture, celle aussi du théâtre, celle de la scène de genre, et je crois que Azimi hésite entre plusieurs styles de mise en scène, et forcément il y a une sensation un petit peu de déphasage par moment. Personnellement, moi je le sens le plus doué dans justement l'évocation héroïque de l'autodestruction. Il y a quelque chose d'assez fou dans tous ces personnages qui vont vers leur mort, qui sont comme aspirés par le pressentiment de leur mort et qui se trouvent grandis devant l'absurdité de leur persistance. Par contre, toutes les scènes qui sont des scènes de mise en relief de l'action principale ou qui tendent à psychologiser un tant soit peu les situations entre les personnages font tomber le film dans quelque chose d'assez anecdotique. Et c'est là où je crois qu'Azimi est finalement un cinéaste assez malheureux parce qu'il il porte en lui un imaginaire qui n'est plus celui du cinéma contemporain. Il est hanté sans doute par les modèles d'Abel Gance, de Jean Epstein, de celui de la grande forme cinématographique qui est celle d'une grande abstraction lyrique jouant surtout par des effets de montage et de musique, un peu comme le cinéma qui serait le cousin ou le fils de l'opéra. Et là, on tombe dans forcément une intrigue, une narration, une aventure, des règlements de compte à la fin puisque Chaumareyre est jugé, et sur ces scènes-là je trouve le film nettement plus faible.
Mais moi je trouve que la retenue d'Azimi sur le radeau lui-même est un peu gênante. C'est-à-dire qu'on ne croit pas un instant au drame que vivent effectivement ces naufragés. Et c'est ça l'échec du film. La première partie, à mon avis, est assez réussie sur c'est le bateau, vrai. Avec le luxe, le contraste qu'il y a entre l'incompétence du commandant et la situation du bateau. Ça, c'est bien vu. Mais je trouve que la deuxième partie, qui devrait être le morceau de bravoure du film, ce radeau n'est
n'est absolument pas crédible.
Ben, tout à fait. Il est morceau de bravure au sens pictural, c'est-à-dire qu'on a l'impression de voir ses chairs, ses corps, ses fragments, comme un peintre les aurait saisis en faisant des esquisses. Et là, on revoit plus les carnets d'esquisses de Géricault lui-même que finalement un travail cinématographique. Et au bout du compte, ce qui fait sans doute l'échec de la séquence, c'est qu'il n'y a pas d'individualisation devant la mort. On ne comprend pas comment on passe de 149 à 14. Et ça, c'est éminemment un problème de mise en scène cinématographique. Tout groupe qui est décimé doit donner la règle de sa destruction. Or, là, c'est un petit peu par l'ellipse de ces deux nuits qu'on voit ce radeau qui était totalement noyé sous une marée humaine, réduit à une dizaine de personnages. Là, je crois que c'est le gros problème d'Azimi par rapport aux personnages au cinéma.
Laurent, il faut dire un petit mot de la dernière scène que moi je trouve très belle, qui est à la fois due au talent incroyable de Terzieff et puis aussi au fait que le travail de Géricault, c'est un peu comme une métaphore de la réalisation du film.
Oui, tout à fait.
Et c'est très émouvant.
Oui, c'est-à-dire qu'à la fin, le personnage Chaumaret a été jugé. Géricault, lui, va reconstituer le drame avec une petite maquette et demande aux trois survivants de poser comme modèle. Et il leur dit cette très belle phrase: ne vous inquiétez pas, cette fois-ci, je serai du voyage. Ça en dit long aussi sur le propre voyage intérieur de Géricault à travers ce fait divers de la Méduse.
Merci Laurent Roth. Alors il s'agit donc du Radeau de la Méduse, un film de Iraj Azimi.
C'était Staccato, les regards de l'été, la nudité à la plage. Une émission d'Antoine Spire, réalisée par Gaël Gillon, avec Jean-Didier Urbain, Jean-Claude Kaufmann, Robert Salis, Catherine Anthony et Jérôme Segal. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 15 juillet 1998.